Bonjour à tous et à toutes, déjà. Alors, je vais commencer donc par la guérison de Naaman le Syrien. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que les récits que nous avons déjà étudiés concernant le ministère du prophète Élisée parlaient de la grâce de Dieu manifestée particulièrement pour Israël. Et à travers le thème de ce soir, on change carrément de terrain. On passe de l'État d'Israël aux nations. En effet, ici, nous voyons, dans le thème que l'on va étudier, nous voyons une préfiguration de la grâce divine qui va s'étendre sur toutes les nations, selon qu'il est écrit en Tite, chapitre 2, verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le thème de ce soir concerne 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 19.
Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse : « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit : « C'est bien, rends-toi là-bas. Je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit : Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria : « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé : « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant : Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire : Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant : « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit : « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista. Mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit : « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter. » car dorénavant ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement, que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit, va en paix. Et Naaman le quitta.
Donc, j'en reviens à ce que je disais quand même. Selon qu'il est écrit donc en Tite 2, chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce est pour tous les hommes de toute nation, de toute langue et de toute couleur. Car, selon le verset bien connu de Jean, il est marqué que Dieu a tant aimé le monde. Et cela n'est pas limité à la seule nation d'Israël, mais à toutes les nations. Dans ce récit, il nous est parlé de Naaman, qui était chef de l'armée syrienne. Durant cette période, la Syrie était souvent entrée en conflit avec Israël. Et c'était d'ailleurs lors d'une rafle en Israël qu'ils avaient emmené captive une petite fille juive. Alors que les Syriens étaient des ennemis invétérés d'Israël, Dieu pouvait-il s'intéresser et s'occuper de cette nation païenne? Eh bien oui, car il est écrit en 2 Rois, chapitre 5, verset 1, que c'était par Naaman que l'Éternel avait délivré les Syriens. Frères et sœurs, sachant que Dieu a un contrôle sur toutes les nations, et dans ce récit, nous voyons que sa grâce ne fait exception de personne. Cette grâce est offerte à tout pécheur sans exception, et j'ajouterai à condition que le pécheur se tourne vers Dieu, bien sûr. D'ailleurs, Jésus était souvent critiqué parce qu'on le voyait manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Matthieu, chapitre 9, verset 11. Sur quoi, il avait répliqué en disant, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Matthieu, chapitre 9, verset 12. Et le Seigneur continue en disant, « Je ne suis pas venu pour sauver, je suis venu Non, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu, chapitre 9, verset 13. Oui, Jésus est venu pour sauver les pécheurs, les malades et les injustes. Le point important est de reconnaître son besoin et de venir au Seigneur. Beaucoup disent, « Cela ne me concerne pas, c'est bon pour les autres. » Mais la Bible dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains, chapitre 3, verset 23. Dans ce verset, le mot « tous » veut dire chaque être humain de la planète. Et la Bible, qui est le livre de Dieu qui s'adresse à tous, doit être un livre personnel et actuel. Car l'homme n'a pas changé, et les besoins de son cœur, ses besoins spirituels, sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. C'est ainsi que dans le récit concernant Naaman, chacun peut y placer son propre nom. Et à la place de la lèpre dont Naaman était atteint, nous pouvons y mettre notre maladie, notre infirmité, notre souffrance, notre dépendance et nos péchés. Et à la place du Jourdain, où Naaman a été entièrement purifié, nous pouvons y mettre la croix du calvaire, là où le sang de Jésus-Christ a été versé pour nous laver, nous purifier, nous sauver et nous délivrer. Le sang de Jésus, nous dit la Bible, nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Car c'est à la croix que découlent toutes les bénédictions divines. Pour revenir à Naaman, le lépreux, voyons ensemble les différentes étapes qui l'ont conduit à recevoir la guérison. D'abord, qui était-il? Premièrement, c'était un grand homme. Socialement, Il était très important et on lui faisait tous les éloges car il était chef général de l'armée du roi de Syrie. C'était une autorité et il était craint. Professionnellement, c'était un homme qui avait réussi dans les guerres et il devait être couvert de médailles. Personnellement, il est dit que c'était un homme fort, vaillant et courageux. Mais spirituellement, c'était un païen, un idolâtre. Malgré tous les éloges qui lui étaient adressés, la Bible introduit le mot « mais » le concernant. Et lorsque l'on prononce un « mais », c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour Naaman, ce mot va assombrir sa célébrité. Mais il était lépreux, et là, ça change tout. En fait, sous sa somptueuse tenue de général en chef de l'armée, il cachait sa misère, sa souffrance due à la lèpre, qui était une maladie répugnante et incurable. Combien nombreux sont ceux qui aujourd'hui cachent leur misère sous une apparence trompeuse. Certains camouflent leur misère derrière une gloire humaine, une haute position sociale ou de grandes richesses. D'autres se cachent derrière une apparence de liberté, d'indépendance en disant « Moi, je suis libre de faire tout ce que je veux » et en fait, derrière le rideau, ils sont de pauvres esclaves du péché, des passions et des démons qui les habitent. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Pour d'autres encore, ce sera une apparence religieuse avec la Bible sous le bras et des traditions. Et à cela, Jésus a dit, « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu, chapitre 23, versets 27 et 28. C'est ainsi qu'après leur désobéissance au jardin d'Éden, Adam et Ève ont aussi voulu cacher leur honte derrière des feuilles de figuier. Genèse, chapitre 3, verset 7. Mais tout cela n'était que de la tromperie. Aux yeux de Dieu, la Bible déclare que nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Il est vrai qu'il y en a pour qui le péché est manifeste, mais pour d'autres, il est camouflé. Lorsque Jésus était ici-bas et que de grandes foules l'entouraient, il est dit qu'il ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Jean, chapitre 2, verset 24. Il les connaissait parce que, contrairement à nous, le Seigneur ne regarde pas aux apparences, mais au cœur. Alors, que voit-il derrière les apparences sous les camouflages? Pour Naaman, c'était la lèpre. Et il y a une grande similitude entre la lèpre et le péché. La lèpre est une maladie infectieuse, chronique, qui s'étend et évolue. Elle attaque les extrémités des membres, les range et les détruit. Autrefois, c'était une maladie inguérissable. Il n'y avait aucun espoir de guérison, et les lépreux étaient souvent rejetés de la société. Ils devaient quitter leur famille, leur milieu, et vivre isolés loin de tout, car ils étaient considérés comme des impurs. Ainsi, celui qui pensait être atteint de la lèpre devait sans doute le cacher le plus longtemps possible, pour que personne ne le sache, afin de ne pas être méprisé et rejeté. Quelle misère, quelle souffrance pour cet homme. Concernant le péché, on n'aime pas en parler. On a même tendance à éviter ce mot et dire qu'il n'existe pas. Et pourtant, le péché a des conséquences terribles, car il crée un mur de séparation entre Dieu et les hommes. Il sépare les hommes et les divise entre eux. Le péché détruit les foyers, produit la haine, la jalousie, la rancune, le mensonge, le vol, le meurtre et toutes les guerres. Le péché détruit tout ce que Dieu avait créé pourtant parfait, bon et pur. Le péché ouvre la porte à Satan, aux démons et à l'enfer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Le péché peut paraître bénin et même plaisant au premier abord. On peut même l'entourer d'un somptueux habit et lui donner une belle apparence religieuse, mais le péché conduira toujours à la mort. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est faire sa vie comme bon nous semble, sans s'inquiéter de ce que Dieu nous demande. Le péché, c'est vraiment rater le but pour lequel Dieu nous a créés. Et si Christ est venu, ce n'est pas pour nous donner un autre camouflage, un habit qui cacherait le péché. Non, Christ est venu pour ôter le péché, détruire les œuvres du diable dans la vie des hommes et nous donner une vie nouvelle. Mais Naaman n'avait aucune espérance pour l'avenir. Il n'aimait sans doute pas y penser. Frères et sœurs, réalisons que chacun d'entre nous devra un jour faire face à la mort. Et après, avons-nous l'assurance du salut? C'est pourquoi la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » Amos chapitre 4, verset 12. Quand? Peut-être aujourd'hui. Pensons-y avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi prions et témoignons envers ceux qui ne sont pas encore en règle avec Dieu et qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Maître. Un jour, Naaman et sa troupe ont fait une invasion, une razzia en Israël. Ils ont pris de nombreux butins, de la nourriture, du bétail et des personnes pour en faire leurs esclaves. Naaman, lui, a gardé une petite fille juive comme esclave afin qu'elle soit au service de sa femme. Pensez un peu ce que devait ressentir la fillette à l'égard de ses ennemis qui avaient semé la terreur dans son village, tuant peut-être sa famille, détruisant et brûlant tout. Quel cauchemar! Quel traumatisme pour cette petite fille. Cependant, lorsqu'elle a appris en travaillant chez Naaman qu'il était lépreux, elle ne s'en est pas réjouie en disant « C'est le jugement de Dieu pour tout le mal qu'il a fait. » Mais elle a été remplie de compassion pour cet homme qui était son ennemi. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu, chapitre 5, versets 43 et 44. Cette petite fille dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle avait du respect pour Naaman, son ennemi, et elle l'appelle « mon Seigneur ». Elle était pleine de compassion pour lui. Elle devait sûrement se dire que ce Naaman, était un pauvre homme malade qui cache une grande misère et qui a besoin de connaître le Dieu véritable. Elle était croyante, et malgré toute sa souffrance, elle ne blâme pas Dieu. Mais elle continue à croire en Dieu. Et au lieu de s'enfermer dans son problème, elle s'inquiète des souffrances d'autrui et même de celles de son plus grand ennemi. Elle croyait à la puissance de Dieu, à la miséricorde et à la grâce divine, même pour son ennemi. Elle avait foi en Dieu, car elle n'a pas dit « peut-être qu'il pourrait être guéri, mais que le prophète le guérirait de sa lèpre ». La foi simple d'une enfant peut déplacer les montagnes. et sa maîtresse accrue au témoignage de la petite fille. Mais pour croire à un tel témoignage, cette fillette avait dû donner des preuves de fidélité et d'honnêteté dans son service. Autrement, ses paroles n'auraient pas été prises en considération. On aurait pu les prendre pour une plaisanterie, de la moquerie ou même un piège. Non seulement sa maîtresse a cru, mais Naaman a cru également au témoignage de la fillette. Et quand il en a parlé au roi de Syrie, afin de lui demander la permission de se rendre en Israël, le roi aussi a cru au témoignage de cette fille. Sommes-nous crédibles? Ceux qui nous entourent peuvent-ils avoir confiance en nous, dans nos paroles, dans nos promesses, dans notre travail? Si ce n'est pas le cas, notre témoignage évangélique, même fondé sur la parole de Dieu, n'aura pas beaucoup d'impact. Naaman est donc parti, mais il va commettre trois graves erreurs. Premièrement, il pense acheter sa guérison, car il est dit qu'il est parti en prenant avec lui 10 000 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Le pardon et le salut de Dieu, la guérison et les bénédictions divines sont toutes des grâces qui ne s'achètent pas, mais qui se reçoivent par le moyen de la foi. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Christ a déjà payé le prix par sa mort expiatoire à la croix. La Bible déclare, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. C'est pourquoi, nous dit encore la Bible, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Deuxièmement, Naaman s'est trompé de lieu pour être guéri, car le roi de Syrie avait adressé une lettre au roi d'Israël en disant « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Le roi d'Israël n'avait pas la foi de la petite fille, puisqu'il était idolâtre. Et dans cette lettre, il y a vu une provocation. Certainement que le roi de Syrie cherche un conflit avec moi, s'est-il dit. Il devait être assez désemparé, puisqu'il a déchiré ses vêtements en signe de détresse, de malheur et d'impuissance face à ce problème. Déchirer ses vêtements était aussi un signe de deuil, d'humilité et de brisement. Mais lorsqu'Élisée a appris ce qui s'était passé, il a fait dire au roi d'Israël, « Laisse venir Naaman à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » J'ajouterai, un prophète du Dieu vivant. Il y en a qui, devant les besoins, dans les problèmes et la souffrance, ne savent plus à quel saint se vouer et qui sont même prêts à pactiser avec le diable pour recevoir un secours, et cela par toutes sortes de moyens et de pratiques occultes. Il y en a qui déclarent que toutes les religions sont bonnes pourvu que l'on soit sincère, car elles mènent toutes à Dieu. Eh bien non, détrompez-vous, car la Bible est claire à ce sujet. Elle déclare dans Actes, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, c'est-à-dire Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est Jésus. Lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis la porte. » Jean, chapitre 10, verset 9. « Je suis la lumière. » Jean chapitre 8, verset 12. Troisièmement, Naaman veut être guéri à sa manière. Il est venu avec ses chevaux et son char, et il s'est arrêté à la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci a envoyé son serviteur pour lui dire « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair, redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman a été irrité et s'en est en allé en colère, car il voulait une grande cérémonie digne de son nom avec tout un protocole. Quelle insulte, quelle humiliation pour lui. Dans la Bible, beaucoup ont posé cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse est simple. Repentez-vous, convertissez-vous, détournez-vous de vos péchés et acceptez par la foi Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Mais la Bible nous dit que Naaman s'en est allé furieux. C'est alors que ses serviteurs se sont approchés de lui pour lui parler et le convaincre de faire cette chose si simple qui lui avait été demandée, « Lave-toi et tu seras pur. » Dans cette histoire, nous pouvons voir trois ministères différents qui ont contribué à la guérison de Naaman. Le premier ministère, c'est celui de ceux qui rendent témoignage en invitant les hommes, les âmes à entendre la bonne nouvelle. Ici, c'était une petite fille. Le deuxième ministère, c'est celui de ceux qui délivrent le message, les prédicateurs de la parole de Dieu, en l'occurrence Élisée. Le troisième ministère, c'est celui de ceux qui interviennent ensuite afin d'aider les âmes à franchir les obstacles, à combattre l'orgueil, les doutes et la crainte. Ici, ce sont les serviteurs de Naaman. Naaman s'est finalement laissé convaincre par ses serviteurs. La Bible nous dit que Naaman descendit alors et plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il était orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Jésus a dit, « Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 18, verset 3. Naaman a dû accepter la parole de Dieu et les conseils qui lui ont été donnés. Il a dû s'humilier et se dépouiller de ses vêtements devant ses serviteurs en enlevant son bel habit de camouflage. Ensuite, il a dû obéir à la parole de Dieu en plongeant sept fois dans le Jourdain. La Bible dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Christ est venu pour sauver l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Et Naaman a été sauvé physiquement et spirituellement, car il est retourné vers Élisée pour le remercier et confesser sa foi en disant « Voici, je reconnais, il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, je ne veux plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, si ce n'est qu'à l'Éternel. » C'est cela que Dieu veut faire aujourd'hui encore dans la vie de chaque être humain. Mais pour cela, il nous faut, premièrement, reconnaître notre besoin et reconnaître que nous sommes atteints par un mal incurable qui nous ronge et nous détruit, le péché. Et nous devons savoir que nous ne pouvons pas changer notre état par nos propres efforts. Deuxièmement, nous devons nous humilier et venir plonger dans le Jourdain qui représente la mort à nous-mêmes, à notre orgueil, au péché, pour rencontrer Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous sauver et nous guérir. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il est écrit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » À présent, prions. Dieu, notre Père souverain et tout-puissant, comme pour Naaman, tu veux encore aujourd'hui purifier et donner une vie nouvelle et un cœur nouveau à tous ceux qui viendront à toi. C'est par la foi en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ qu'ils pourront naître de nouveau, recevoir le pardon de leurs péchés et être guéris de leurs maladies, sachant qu'il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Père, que ce soit là le thème de notre évangélisation auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore. Amen. Alors maintenant, c'est un peu la continuité du premier thème. Le deuxième thème, je l'ai intitulé « Pourquoi les croyants sont-ils encore malades ?» Pourquoi les croyants sont-ils encore malades ? Puisqu'il est dit qu'à la croix, Jésus nous a acquis une totale rédemption de l'âme et du corps. De plus, le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ n'est-il pas un salut qui englobe les besoins de l'homme tout entier, esprit, âme et corps? Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là un salut dans les domaines spirituels, psychiques et physiques de l'homme. Et Dieu lui-même se présente dans Exode, chapitre 15, verset 26, comme étant l'Éternel qui guérit, Yahvé Rapha. Le psaume 103, au verset 3, lui, nous dit qu'en tout temps, Dieu a toujours pourvu à la guérison de son peuple. Le psaume 107, au verset 20, de son côté, déclare que Dieu envoya sa parole et les guérit. Et dans Exode, chapitre 23, versets 24 à 26, nous lisons des promesses de guérison liées à l'obéissance à la parole de Dieu. Dans ce passage, il est écrit « Tu ne te prosterneras point devant les dieux des païens, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, que remplirai le nombre de tes jours. » Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de mort prématurée. Le ministère de guérison de Jésus a été annoncé longtemps à l'avance dans Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5, qui dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et Malachie, chapitre 4, verset 2, déclare « En parlant du Seigneur Jésus, le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. » Jésus, rempli du Saint-Esprit, accomplissait la volonté de son Père en guérissant les malades. Chez Corneille, Pierre a dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Actes, chapitre 10, verset 38. Et jamais une seule fois, le Seigneur aurait déclaré à un malade « Je regrette mon ami, mais la volonté de Dieu, c'est que tu restes malade. » Au contraire, il a toujours répondu d'une façon affirmative en disant par exemple au lépreux « Je le veux, sois pur. » Marc, chapitre 1, verset 41. Ou au centenier pour son serviteur malade « J'irai et je le guérirai. » Matthieu, chapitre 8, verset 7. Sur la croix du calvaire, Jésus s'est chargé de tous nos péchés et de toutes les conséquences résultant de la séparation de l'homme d'avec Dieu. comme la malédiction sous toutes ses formes, ainsi que la maladie. C'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre reprend ce passage d'Ésaïe dans sa première épître en disant « Par les meurtrissures du Seigneur Jésus, nous avons été guéris. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Le désir de Dieu pour la santé de son peuple est également exprimé dans 3 Jean 2, où il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Frères et sœurs, malgré tout ce que je viens de vous dire, la question reste entière. Pourquoi les chrétiens sont-ils encore malades? Mais on pourrait aussi poser une autre question. Pourquoi les chrétiens pêchent-ils encore, malgré que le Seigneur Jésus se soit chargé de tous nos péchés à la croix? Si, en tant qu'enfants de Dieu, nous tombons encore dans le péché, toutefois, nous ne devons pas rester dans cet état, puisque la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. Pour un enfant de Dieu, vivre et rester dans le péché n'est pas un état normal, car il est dit que celui qui est né de Dieu ne pèche point parce qu'il se garde lui-même, et ainsi le malin ne le touche pas. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Si la guérison divine nous est accordée en raison du sacrifice de Jésus à la croix, il importe cependant de nous garder aussi nous-mêmes et de vivre sagement afin que le malin ne nous touche pas. C'est ainsi que j'ai noté plusieurs raisons à la maladie parmi le peuple de Dieu. Il y en a 8. Alors, premièrement, la première raison, par ignorance, en pensant que la maladie vient de Dieu et en ne sachant pas que Dieu puisse encore guérir aujourd'hui. Dans ce cas, on ne priera pas pour la guérison. Dieu dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Aussi, sachant que Jésus est mort pour nos maladies. Deuxièmement, on est malade par désobéissance à Dieu et à sa parole. Tout péché et toute rébellion nous rend vulnérables. La Bible nous parle des œuvres de la chair dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, comme étant des ouvertures à l'ennemi dans nos vies. Et dans Éphésiens, chapitre 4, verset 27, il est écrit « Ne donnez pas accès au diable par un comportement désordonné. » La guérison promise au peuple de Dieu était conditionnelle. Il devait écouter et observer la parole et servir Dieu pour que la guérison puisse se manifester. Dieu dit à son peuple dans Exode, chapitre 15, verset 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, alors je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et ailleurs, dans Proverbes, chapitre 3, verset 7, il est dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Troisièmement, on peut être malade par une négligence de notre corps. Il importe de prendre soin de notre corps qui est appelé le temple du Saint-Esprit. La Bible dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. C'est pourquoi il est dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Notre corps est régi par des lois physiques et morales. Il a besoin d'être tenu dans la propreté, d'être vêtu et nourri convenablement, d'être en activité et de jouir aussi de repos. La violation des lois physiques et morales est une porte ouverte à la maladie. Parmi ces violations, il y a l'excès du manger et du boire, l'alcool, le tabac, les drogues, l'excès de médicaments et la liste est longue. Bien des prescriptions sous l'ancienne alliance avaient été données afin de prévenir la maladie, comme les lois concernant la propreté sanitaire. Alors là, il y a trois livres. Deutéronome, chapitre 23, versets 13 et 14. Lévitique, chapitre 11, versets 32 à 40. Et Nombre, chapitre 19, verset 18. Quatrièmement, la maladie peut être causée par une mauvaise attitude. La santé du corps est fortement liée à la santé psychique et spirituelle de l'homme. Dans 3 Jean 2, il est écrit « Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et dans Proverbes, chapitre 23, verset 7, il est dit « car il est tel que sont les pensées de son âme. » Beaucoup de maladies proviennent d'un état désordonné de l'âme, des émotions incontrôlées, comme la rancune, la haine, la jalousie, la colère, les soucis, l'anxiété, les angoisses, la crainte, le refus de pardonner, la pitié de soi, etc. Cinquièmement, la maladie peut être causée par une mauvaise confession continuelle. En cultivant sans cesse des pensées négatives, sombres et de malheur. La Bible dit que nous récoltons ce que nous semons. Galates chapitre 6, verset 7. Et Job déclare « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Job chapitre 3, versets 25 et 26. La crainte est aussi puissante que la foi, mais elle détruit. Parce que le peuple d'Israël, dans le désert, était souvent négatif, mécontent, et qu'il murmurait sans cesse, beaucoup sont morts. Ne disons-nous pas souvent « Je n'ai pas le moral », alors que la Bible nous dit, comme le pasteur nous l'a dit dimanche dernier, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Philippiens chapitre 4, verset 4. C'est pourquoi la Bible nous exhorte en disant « Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Et Proverbes chapitre 17, verset 22 nous dit « Un esprit toujours abattu dessèche les eaux. » Sixièmement, la maladie provient parce que l'on ne discerne pas l'unité du corps de Christ. C'était le cas dans l'église de Corinthe, où il est écrit qu'il y avait beaucoup d'infirmes, de malades, et même qu'un grand nombre était mort. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 30. Et cela parce que leur témoignage en participant à la table du Seigneur ne correspondait pas à leur manière de vivre. En participant à la Sainte Cène, nous témoignons de notre union avec Christ, comme cela est écrit dans Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Nous témoignons aussi de notre union avec les frères en Christ, car nous formons un seul corps, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Maintenant, si ce témoignage n'est pas vrai dans la réalité, parce que nous vivons dans le péché, le désordre et la division, nous permettrons à l'ennemi de nous toucher. Septièmement, une autre cause provoquant la maladie est l'héritage reçu de nos parents et les raisons sont multiples. ce peut être une vie désordonnée, la transmission de maladies infectieuses, des péchés d'abomination provenant de pratiques occultes pouvant atteindre jusqu'à la troisième et la quatrième génération, selon Exode chapitre 20, verset 5. D'où l'importance, dans ce dernier cas, de détruire tout objet ayant servi à de telles pratiques, afin de briser ces liens dans le nom de Jésus. Ces objets peuvent être des statues, des amulettes, des médailles, des fers à cheval, des cartes divinatoires, des livres, etc. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, nous dit 1 Jean chapitre 3, verset 8. Alors, déposons à ses pieds tout ce qui peut nous nuire. Huitièmement, la maladie peut aussi être permise par Dieu comme épreuve pour affermir notre foi. L'apôtre Pierre a dit « L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. L'épreuve n'est pas forcément la conséquence d'une faute commise. C'est le cas, par exemple, pour l'aveugle né. Les disciples ont posé à Jésus la question suivante. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus a répondu, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Jean, chapitre 9, versets 2 et 3. L'épreuve peut être permise par Dieu afin de servir d'avertissement. Dans Job, chapitre 33, versets 16 à 19, il est dit, « Par la douleur, Dieu donne des avertissements afin que nous nous rapprochions de lui. » Le roi Ézéchias, qui était malade à la mort, a pu dire « Voici, mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. » Ésaïe, chapitre 38, verset 17. Il était conduit à chercher le Seigneur. Il y a également l'exemple du fils prodigue qui, au sein de sa misère, est revenu chez son père. Il y a aussi Israël qui a séjourné 40 ans dans le désert suite à sa désobéissance. Mais il est dit que Dieu a permis cela afin de l'humilier et de l'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5. Le vigneron émonde les sarments afin qu'ils portent encore plus de fruits. Jean, chapitre 15, verset 2. C'est là une souffrance et une épreuve qui est nécessaire à notre croissance spirituelle. Paul a eu une épreuve dans sa chair pour le préserver de l'orgueil. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Les épreuves de Job ont été permises par Dieu, mais Satan en était l'auteur. Job, chapitre 1, verset 12 et chapitre 2, verset 6. Et ceci était en vue du témoignage à rendre à la fidélité de Job envers Dieu, du témoignage face aux hommes et aux anges et contre les fausses accusations du diable. Paul le déclare aussi lorsqu'il dit « Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Enfin, dans le psaume 34, au verset 20, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. » Frères et sœurs, pour terminer, n'oublions pas que Dieu est souverain, tout-puissant, sage et bon, et que finalement, en Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort. Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Car au moment voulu du départ, la mort sera pour nous un gain. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Cependant, au sein de la souffrance et de la maladie, la Bible dit que nous devons prier afin de pouvoir considérer les raisons possibles qui provoquent notre maladie et de mettre notre vie en ordre devant Dieu et les hommes pour que notre cœur ne nous condamne pas. Paul a prié trois fois pour que son épreuve lui soit enlevée, et le Seigneur lui a répondu « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 et 9. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques, chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques, chapitre 5, verset 16. La guérison, nous l'avons en Christ, puisqu'il a tout accompli à la croix et que nous avons tout pleinement en lui, selon qu'il est écrit, « Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume, chapitre 23, verset 1. Oui, avec Christ, nous ne manquerons de rien, spirituellement, physiquement et matériellement. Ainsi, par la foi, nous pouvons saisir toute la victoire de Christ à la croix et proclamer que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible déclare, retenons fermement la profession ou la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Et s'il est vrai qu'au cours des années, notre corps physique s'affaiblit et s'use, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16b, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, il nous faut savoir que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, petit c. Et que nous sommes appelés à regarder non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles et éternelles. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Car nous attendons la pleine rédemption de notre corps, qui est un événement futur, lorsque nous serons semblables au Seigneur Jésus, qui transformera notre corps d'humiliation. Car nous recevrons un corps de gloire lorsqu'il viendra nous chercher. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, il est écrit « À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Et nous serons changés. Cela arrivera pour que tous ceux qui auront touché par la foi le Seigneur Jésus, crucifié et ressuscité. Donc, pour terminer, n'oublions pas en ce qui nous concerne qu'aujourd'hui Dieu guérit encore, mais que c'est en espérance que nous sommes sauvés, car nous attendons la pleine rédemption de notre corps lors de son prochain retour. Romains, chapitre 8, verset 24. En attendant, restons fidèles à Dieu et à sa parole jusqu'au bout de notre pèlerinage terrestre, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, verset 23.